Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Merci les choristes. Nous allons donc faire une lecture dans l'épître de Jean. La première épître de Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 4, pardon, verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je le répète, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 17. Verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Verset 9 du chapitre 5. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Retenez bien cette parole. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Cet épître se termine avec des convictions. Nous savons que nous avons reçu la vie. Nous savons que ceci, nous savons que cela. Voilà ce que doit vivre un chrétien. Il doit vivre avec des convictions. Un chrétien qui n'a pas de convictions est un chrétien qui, quelles que soient les expériences qu'il a pu faire, ne connaît pas la pensée de Dieu. Un chrétien, il sait ce que Dieu dit. Et même s'il ne sait pas tout, en tous les cas, ce qu'il sait, il le sait. Nous avons vu dimanche dernier qu'un des premiers problèmes que le chrétien rencontre, c'est de ne pas savoir s'arrêter. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens, ils écoutent d'une oreille, ils écoutent un peu, c'est la parole, mais ils n'entendent pas. Ou ils entendent, mais ils n'écoutent pas. On a souvent entendu cette façon de parler, oui, j'écoute, mais j'entends pas, ils écoutent, mais ils n'entendent pas, ou ils entendent, mais ils n'écoutent pas, etc. Donc, écoutez, si quelqu'un entend ma voix, cette parole est répétée, chaque fois dans l'Apocalypse, si quelqu'un entend ma voix, le seul moyen de vraiment entendre Dieu nous dire ce qu'il a à nous dire, c'est de s'arrêter, de savoir s'arrêter. Entendre, regarderez le dictionnaire dans le Robert, entendre le mot écouter, ce sont des mots qui expriment vraiment une attention, quelqu'un qui s'applique, qui porte l'oreille, qui vraiment, il veut savoir. Il fait attention. Jésus a dit, dans les prophéties, « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Et vous savez, à partir du moment où ce que je pense est plus important que ce que Dieu dit, c'est que je n'écoute pas Dieu. Je pensais ce matin à David. David, pourtant, c'était quelqu'un qui a dit, dans ma précipitation, je disais, je suis chassé loin de ton regard. David, lorsqu'on se précipite, on dit souvent des bêtises. Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Je disais dans ma précipitation, mais ce sont des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Et le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas une question d'expérience, tant mieux les expériences, mais béni soit Dieu pour toutes les expériences. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des expériences qu'on reste fidèle à Dieu. Par contre, quand quelqu'un reçoit le témoignage de Dieu, on l'a dit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Si ce que je pense est plus important que ce que Dieu dit, c'est que je ne sais pas écouter, ou pire encore, c'est que je ne veux pas écouter. Est-ce que vous avez envie d'écouter Dieu? C'est la chose la plus importante. C'est comme ça que votre cœur sera rempli de convictions. C'est un problème, on aura peut-être le temps d'y revenir dans les mois à venir. Le deuxième problème, celui que nous avons abordé mardi soir, dont je n'ai pas pu terminer, c'est que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous repentons et que nous nous convertissons, nous avons un désir, c'est de plaire à Dieu. Est-ce que vous l'avez toujours ce désir? Vous l'avez toujours? C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de profond. Quelqu'un veut plaire à Dieu, quelle que soit sa place dans l'Église, il a un désir, il veut plaire à Dieu. C'est excellent. Mais voilà, le problème c'est que dans notre désir de plaire à Dieu, nous devenons souvent religieux. Je l'ai expliqué mardi, je vais y revenir ce matin. Et nous voulons faire de plus en plus de choses. Nous désirons faire de plus en plus de choses pour plaire au Seigneur, en pensant que plus je ferai certaines choses, plus Dieu m'acceptera. Le dernier témoignage, c'est pas vieux. Une jeune fille m'a appelé vendredi. Écoutez bien, parce que c'est révélateur, c'est vraiment révélateur, c'est flagrant. Cette jeune fille me disait ceci, mais si je prie davantage, si je lis davantage la Bible, le Seigneur m'aidera davantage. Alors, est-ce que c'est vrai? Ah, c'est une question. Oui et non. Parce que je peux vous dire que les pharisiens étaient ardus dans leur façon de prier et dans leur façon de jeûner, dans leur façon de prier, etc. Je peux vous assurer. Vous voyez? Et une des raisons, écoutez bien, j'y reviendrai assez pour que vous compreniez. Une des raisons qui font que beaucoup de chrétiens n'ont pas trouvé la paix, qui n'ont pas trouvé le repos, c'est qu'ils ont essayé de plaire à Dieu avec leur force, avec leur zèle, avec leur propre justice. C'est pas conscient, ou ça l'est, c'est pas grave. De toute façon, que ce soit, bon, si c'est conscient, c'est quand même pas bon, parce que c'est de l'orgueil. Mais ça peut que générer de l'orgueil. Je prie davantage que Madame Untel, je jeûne davantage, je fais davantage de choses, donc je dois être plus accepté de Dieu, Dieu doit m'aimer davantage, moi je prie plus que Joël, donc voilà, quand même, Dieu, c'est vrai, ouais. Donc Dieu doit m'aimer davantage, enfin, vous priez beaucoup. Mais voyez, mais c'est une mentalité religieuse et ça nous empêche vraiment d'entrer dans le repos de Dieu. C'est sûr qu'il faut chercher à plaire à Dieu. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, si vous servez Dieu de cette façon, vous êtes agréable à Dieu. Celui qui fait ceci est agréable à Dieu. On voit bien qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu. Quand on loue Dieu de tout son cœur, ça lui plaît. Mais ce n'est pas parce que je loue Dieu, que j'adore Dieu, que je suis vraiment un adorateur. Et on va multiplier ces choses. Je les expliquerai petit à petit. Mais mon souci à moi, je pense, c'est de vous aider l'Église à comprendre pourquoi certains chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos de Dieu. Les pharisiens, ils voulaient plaire à Dieu. Quand vous regardez vraiment les pharisiens, quand vous étudiez sur les pharisiens, si vous achetez des bouquins qui expliquent ce que faisaient les pharisiens, ils n'avaient qu'un désir. Ils avaient appris la Torah par cœur. Est-ce que vous vous rendez compte? Certains étaient capables de réciter la Torah par cœur. C'est pas quelque chose. Les 5 premiers livres de la Bible, ils étaient capables, certains, de les réciter par cœur. Pourquoi ils faisaient ça? Ils faisaient ça pour plaire à Dieu. Vous rendez compte, celui qui connaissait la Torah par cœur, c'était celui qui était le plus proche de Dieu. Pour eux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les pharisiens? Vous voyez? Et dans leur désir de plaire à Dieu, ils se sont embourbés dans un marécage de règles. De règles de ceci, des garde-fous pour cela. Ils avaient tous les domaines de la vie. Regardez les pharisiens. Tous les domaines de la vie étaient couverts par des garde-fous. La façon de s'habiller. Ils avaient des règles pour la façon de s'habiller. Ce que l'on avait le droit de boire. Ce que l'on n'avait pas le droit de boire. Ce qu'on avait le droit de manger. Ce qu'on n'avait pas le droit de manger, etc. Des endroits où on pouvait aller. Des endroits où on ne pouvait pas aller. Ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Les gens que l'on pouvait fréquenter. Ou les gens qu'il ne fallait surtout pas fréquenter. Il y avait des centaines et des centaines de choses, des rites, des formules, etc., etc. Comment il fallait manger, comment il fallait se comporter lorsqu'on jeûnait, comment il fallait faire quand on priait. C'est un truc à vous assommer. Et ils le faisaient pour Dieu. C'était leur vérité. C'était la vérité pour eux. C'était le modèle. Et ils faisaient tout ça pour que Dieu les accepte. Pour être apprécié de Dieu, pour être accepté par Dieu. C'est la religion. C'est pour ça que les gens sont écœurés, dégoûtés de la religion. Les gens ne veulent pas entendre parler. Souvent, dernièrement, j'ai témoigné à un monsieur, mais il me dit, mais moi, la religion, je n'en veux pas. Et je lui dis, mais ça tombe bien, moi aussi. Comment ? Vous êtes pas... Mais c'est vrai, mais c'est vrai. On n'en veut pas de la religion. On veut la grâce de Dieu. C'est ça dont on a besoin. Voyez, et ils se confiaient dans leurs efforts. Et c'était celui qui faisait le plus d'efforts, qui était le plus spirituel. C'était celui qui jeûnait le plus longtemps, qui était le plus spirituel. Vous vous rappelez quand Jésus disait, mais ne priez pas comme les pharisiens. Ils prient à l'angle des rues. Ils ont leur récompense. Ah, c'est sûr. Vous allez acheter la viande. Vous voyez le gars à l'angle de la rue en train de prier. Vous revenez une heure après. Il est toujours en train de prier. Qu'est-ce qu'il doit aimer Dieu? C'est sûr qu'il a sa récompense. Mais cette récompense-là, moi, j'en veux pas. Vous voyez, c'est la récompense des hommes. La récompense des hommes, bon, c'est très, très, très léger. À côté de la récompense de Dieu. Ils obéissaient à ses rites. Vous voyez, ils voulaient plaire à Dieu. Et regardez ce que je disais mardi. Que les reproches les plus sévères que Jésus a dû faire, il a dû les faire à des pharisiens. À cause de leur religiosité. Et les gens vivaient dans ce contexte. Quand Jésus est arrivé, la religion d'État, même si le pays était occupé, c'était la religion des pharisiens. Et ils imposaient leur religion. Mais les gens, ils n'en avaient pas envie. Vous avez envie de ça? Vous savez, on a vite fait de l'introduire. Alors c'est vrai que quand même, un chrétien, il a le souci de rendre un bon témoignage, il va faire attention à sa façon de s'habiller, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui fait que les gens vivent dans le repos et vivent dans la grâce de Dieu. Moi, je plains les pharisiens. Plus j'étudie la Bible, il y a une époque où je les ai jugés, parce que beaucoup d'entre nous avons été offusqués de voir que ces gens religieux, ce sont ceux qui ont été utilisés pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Il faut quand même le dire. En tous les cas, ils faisaient plein d'efforts pour plaire à Dieu. Et c'était imposé. Voilà, quelqu'un de spirituel, alors vous comprenez bien que les gens normaux fuyaient la secte des pharisiens, l'église des pharisiens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a été ému de compassion pour ces gens-là. Pour tous, il a été ému de compassion. Et je crois que dans un monde où les gens pensent n'importe quoi de la religion, la première des choses à faire, c'est d'avoir de la compassion pour les gens. Quoi que ce soit que les gens peuvent dire, nous devons avoir de la compassion pour eux. Et Jésus, dans sa compassion, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a exhortés à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a expliqué ce qu'était la grâce. Et franchement, mes frères et sœurs, depuis quelques mois où je médite sur ce sujet, je réalise de plus en plus combien nous avons besoin uniquement de la grâce de Dieu. C'est pas une liste de choses à faire, c'est pas des commandements à apprendre par cœur, mais c'est vivre vraiment à côté du Seigneur Jésus-Christ. Pas le temps d'un culte, pas le temps d'une réunion, pas le temps de nos cultes personnels, mais l'invitation de Jésus, elle est elle est claire. Il nous invite à vivre avec lui tous les jours de notre vie, toutes les nuits de notre vie. Il nous invite à vivre avec lui. La grâce de Dieu, ce n'est pas des formules. La grâce de Dieu, ce ne sont pas des rites, ce n'est pas une religion. La grâce de Dieu, c'est une personne vivante qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Voilà le joug qui procure la vie. La religion, ça vous épuise. Pourquoi tant de chrétiens sont épuisés? Je vous ai donné ce témoignage de cette chrétienne qui me disait qu'elle fuyait les chrétiens. Parce que ces chrétiens communiquaient des angoisses à cette sœur. Ça fait quand même réfléchir. Quand on est chrétien et qu'à la place de communiquer la paix, on communique la peur aux gens. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on impose aux gens. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a procuré, lui, il a dit qu'il donnerait la paix. Est-ce que vous avez la paix ce matin? Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous pouvez dire oui? C'est sûr, je ne suis pas toujours au top, mais je vis dans la paix du Seigneur. La paix, la vraie vie, la vraie piété, cette vie spirituelle qui me libère de ce joug du monde, de cette misère. Voilà ce que le Seigneur nous a proposé. Venez à moi et je vous donnerai du repos. La véritable religion, on le comprend, ça ne peut pas être des formules et des principes et des rites. La véritable religion, c'est de connaître Jésus-Christ d'une manière personnelle. La véritable religion, c'est une personne qui vit à l'intérieur de votre cœur. Vous voyez, j'aurais pu dire à cette fille, mais oui, il te faut prier davantage, il te faut lire davantage. Tu verras, ça ira mieux. Mais c'est pas vrai, il y a des gens qui prient, qui jeûnent, ça va pas mieux du tout. Parce qu'ils s'appuient sur ces choses. Ils ne s'appuient pas sur Dieu. Il y a des gens, ils font leur culte d'une manière consciencieuse et ils sont heureux tout le temps qu'ils font leur culte. Mais le culte terminé, ils sont malheureux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils font confiance à leurs efforts et non pas, ils ne font pas confiance à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont malheureux tout le long de la journée et ils sont heureux que quand ils font le culte. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va pas? Eh oui, mais vous êtes d'accord avec moi, vous savez que c'est vrai. Il y a des gens qui sont bien quand ils prient. Et dès qu'ils ne prient pas, qu'ils sont obligés de vaquer à leurs occupations, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a le ménage, parce qu'il y a la voiture, parce qu'il y a les bouchons, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus la paix, il n'y a plus la communion avec Dieu. Mais c'est la preuve qu'ils se confient dans leur culte à la place de se confier en Dieu. Le véritable repos ne peut être expérimenté que si on comprend l'amour de Dieu. Ça, c'est une chose vitale. Nous avons vu deux aspects de ce que l'on doit faire, c'est-à-dire savoir s'arrêter et faire attention à ne pas introduire la religion dans la spiritualité, la religion du côté négatif. Mais ce matin, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, je voudrais vous parler de l'importance de connaître l'amour de Dieu. Dieu s'est révélé comment ? En Jésus-Christ. Dieu nous a fait connaître ce qu'il était par la présence de Jésus-Christ. Dieu a manifesté son amour, on en a lu une partie, Dieu a manifesté son amour par l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas des émotions que Dieu a manifestées, Dieu a vraiment manifesté d'une manière concrète son amour, et son amour, c'est sa nature. Dieu vous aime. Vous le croyez? Si nous ne... Vous avez vu, hein? Celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur. Donc, c'est clair que quelqu'un qui ne croit pas que Dieu l'aime, il va avoir du mal à rentrer dans le repos du Seigneur. Vous avez tous lu le meilleur sermon qui a jamais été prêché, c'est le sermon sur la montagne, c'est les fameux chapitres de Matthieu, où Jésus dit ceci, « Aimez vos ennemis ». Est-ce que c'est... Oui, c'est pas évident, je sais quelque chose. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Ça a changé de la loi, ça. Œil pour œil, dent pour dent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans Luc 6, 35, il ajoute, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Ces deux textes, que vous le vouliez ou non, nous parlent de la façon dont Dieu nous aime. Il aime tout le monde, puisqu'il nous comprenons que s'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est que lui, bien sûr, il aime ses ennemis. Les méchants, les injustes, les ingrats, tout ce que vous voudrez. Et cet amour ne demande rien en retour. La religion, c'est pas ça du tout. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et je peux vous assurer que ça, je l'ai ressenti, pas ici, dans une église, où je sais pas bien ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est pas bien parce que c'est dommage. Mais c'était quand même ça, où je savais que les gens m'aimaient parce qu'ils avaient besoin de moi. Dans l'AVC, j'ai expérimenté qu'ici, c'était l'inverse. Et ça m'a beaucoup réjoui. Vous avez besoin de moi parce que vous m'aimez. C'est pas tout à fait la même chose. Vous y réfléchirez? J'y ai passé la moitié de la nuit à réfléchir à ça. Alors, je vous demande pas d'y réfléchir de suite. Est-ce qu'on aime les gens parce qu'on a besoin d'eux, ou on a besoin d'eux parce qu'on les aime? Bon, j'ai passé du temps, il faut que je réfléchisse aussi. L'amour de Dieu ne demande rien en retour. Il aime tout le monde. C'est sa nature d'aimer. Il aime parce qu'il a décidé d'aimer. On ne peut pas comprendre. Et beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos parce qu'ils n'ont pas reçu ce témoignage-là. Que Dieu est amour. Et que quoi que ce soit que les hommes puissent faire, il a choisi de les aimer. J'ai reçu plusieurs mails pendant mon épreuve. Et j'y pensais ce matin, j'y pensais hier en préparant cette prédication. Vous voyez les colloquintes dans la soupe. C'est pas méchant. Et en plus, ça peut flatter l'orgueil. Oh, monsieur Go, Dieu doit vous aimer à vous, parce que vous êtes son serviteur. Donc, il ne permettra pas que vous restiez handicapé, etc. Enfin bon, parce que Dieu doit vous aimer, parce que vous êtes son serviteur. Moi, je vais vous dire ma conviction. Dieu m'aimait avant. Et si Dieu m'avait repris, Dieu aurait pu me reprendre. Est-ce que ça voulait dire que Dieu m'aimait moins? Oui, mais c'est ça que ça... Mais, vous voyez? Est-ce que Dieu m'aimait quand j'étais contre lui? Mais bien sûr. Mais voyez, oui, mais voyez un petit peu comment ça rend. C'est des chrétiens super sympas, ça fait plaisir. C'est gentil comme tout. Mais que vous le vouliez ou non, ça inocule cette mauvaise pensée que Dieu nous aime parce qu'on fait quelque chose pour lui. Alors, est-ce qu'un chrétien doit être paresseux? Bien sûr que non. Et j'ai déjà dit, et je le pense, que si vous ne faites rien pour Dieu, moi je me fais du souci pour vous. Sérieusement, si vous venez qu'en spectateur à l'église, moi je me fais du souci pour vous. Mais Dieu ne vous aime pareil. Dieu m'aimait, si Dieu m'avait repris, ça ne changeait rien du tout. Dieu nous aime à tous. Il a choisi de nous aimer. Quand vous regardez ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est extraordinaire de prendre la Sainte Cène tous les dimanches, vous ne voyez qu'une chose, c'est l'expression de son amour. Comment il a vécu, comment il est mort, comment il est ressuscité, comment il est remonté au ciel, ce qu'il a dit, ce qu'il a redit, ne prouve qu'une chose, c'est que Dieu nous aime. Comment il a réagi lorsqu'on l'a crucifié? La première parole, c'est « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». La religion la plus pure, si on parle de religion, parce qu'on peut parler de religion, ce n'est pas interdit, si on parle de la religion la plus noble, c'est la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Oui ou non? Si on veut prendre la religion la plus noble, on dit voilà, c'est tout ce que Dieu a dit à Moïse sur le mont Sinaï. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand vous regardez ce qu'a fait Jésus, il n'a pas aimé son prochain comme lui-même. Il a aimé son prochain plus que lui-même. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Même la religion la plus pure n'est rien à côté de l'amour que Jésus-Christ a manifesté sur le bois de la croix. Jésus n'a pas aimé son prochain comme lui-même, c'est pas vrai. Jésus a aimé son prochain plus que lui-même. Et on n'a pas le temps ce matin, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, faites-le. Je vous donne un petit travail, ça va vous prendre des semaines. Faites-le dans votre culte personnel, vous méditez le livre d'Osée. Et vous verrez pourquoi ce livre a été écrit. Si vous le lisez une vingtaine de fois, vous comprendrez ce que Dieu est capable de faire par amour. Et ce que Dieu enseigne à ce prophète, c'est quelque chose d'hallucinant. Lisez le livre d'Osée. Vous comprendrez vraiment ce que Dieu voulait qu'Israël comprenne. C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre. Il faut le recevoir par la foi. Parce que si nous nous comparons, nous, l'amour de Dieu, même à l'amour le plus excellent que nous avons eu, il y a des gens que vous avez aimés particulièrement ? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez aimés particulièrement ? Plus que d'autres ? Est-ce que c'est normal ? Bien sûr, heureusement. Donc, on pourrait dire, tiens, Dieu doit aimer cette personne, doit nous aimer comme j'ai aimé telle personne, tellement je l'aime. Donc, mais c'est même l'amour le plus fort que l'on puisse avoir pour quelqu'un n'est absolument rien à côté de l'amour à pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, il n'a pas pleuré sur ce qu'il allait vivre, il a pleuré sur Jérusalem. Vous vous rappelez ? Est-ce qu'il aurait eu le droit de pleurer sur lui ? Il aurait pu pleurer sur lui. Tout ce qu'on va me faire, on va m'abandonner, on va me vendre pour 30 pièces, le prix d'une esclave femme. C'est ça aussi, c'était une insulte de plus. Ça, on aurait pu le vendre 50 pièces d'argent. Le prix d'un homme à l'époque. On l'a vendu 30 pièces. Vous voyez, quand même, il aurait pu. Il n'a pas pleuré sur lui. Il a pleuré sur Jérusalem. Il aurait pu pleurer quand même avec tout ce qu'il allait traverser. Est-ce qu'il le savait qu'il allait le traverser ? Mais oui, de tout temps, il le savait. Il le savait avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Il ne pleurait pas parce qu'on allait le crucifier. Il ne pleurait pas parce qu'on allait l'abandonner. Il pleura parce que les hommes se faisaient du mal. Et il pleurait parce qu'il savait que les hommes, en se faisant du mal, allaient droit à l'enfer. Parce qu'il faut quand même en parler, Jésus n'a pas pleuré d'une manière émotionnelle, il n'a pas pleuré parce que les gens ne se faisaient que du mal sur la terre. Si les gens ne se faisaient que du mal sur la terre, ça serait encore pas trop méchant. Mais il savait que les gens allaient directement en enfer parce qu'ils ne recevaient pas son amour. Il pleura pour ses ennemis. Parce qu'il savait très bien que ses amis, il les aurait avec lui. Vous voyez, moi j'ai jamais compris, il m'a fallu des années. Pourquoi Jésus pleura-t-il devant le tombeau de Lazare ? Alors qu'il avait dit juste avant, quatre jours avant, à ses apôtres, « Je me réjouis de ce que j'étais pas là. » Il allait faire, pour ainsi dire, le plus grand des miracles jamais faits sur la terre, ressusciter un mort en putréfaction, et il pleure. Oui, il ne pleurait pas, il aurait pu dire, ils vont comprendre maintenant. Il n'a pas dit, ils vont comprendre. Maintenant, ils vont voir qui je suis. Non, il pleura. Oui, il pleura pourquoi ? Parce que il voyait pas le corps mort de Lazare. Il voyait tous les gens qui sont morts et qui meurent éternellement sans Dieu parce qu'ils rejettent son amour. Voyez, il était quand même le Fils de Dieu. Il aurait pu dire, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je vais vous montrer, enfin, vous allez comprendre que je suis le Fils de Dieu. Non, vous voyez, cette humilité du Seigneur, c'est incompréhensible, parce que n'oublions pas que Jésus est Dieu, qu'il s'est fait homme. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? De manifester son amour envers ses enfants, c'est évident, mais il est en train de manifester également son amour envers ses ennemis. Et le repos, l'amour de Dieu donne le repos. Si beaucoup de chrétiens n'ont pas le repos, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu comme véritablement une grâce. Il vous aime. Il a choisi de vous aimer. Il vous aime éternellement. Il aime tout le monde. Bien sûr qu'il n'y a pas la même affinité. Est-ce que Dieu aimait Hitler ? Ben oui, Dieu aimait. Est-ce que Jésus aimait Judas ? Est-ce que Jésus aimait Judas comme il aimait Jean ? Si. Mais vous êtes renvoyé, Claudine. Jésus aimait Judas exactement comme il aimait Jean. Mais il y avait une affinité entre Jésus et Jean. C'est le mot que tu voulais dire. Voilà, tu restes. Mais il y avait une affinité qui fait une communion qui faisait que l'amour était beaucoup plus intense. D'ailleurs, c'est écrit trois fois que Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Mais quand Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané, il prend Judas, il l'embrasse et il lui dit, mon ami, ce que tu fais, fais-le. C'est quand même. Jésus nous aime à tous pareil, mais il est certain que l'amour de Dieu peut nous amener beaucoup plus loin dans une communion et une affectivité, une affinité beaucoup plus grande. Mais Jésus vous aime. Si vous ne le croyez pas, vous faites Dieu menteur. Comment voulez-vous avoir le repos si vous ne croyez pas que Dieu vous aime ? Mais moi, ça m'arrive. Oh, Dieu ne doit pas m'aimer. Vous savez, je ne suis pas une bonne chrétienne. Bon. Bon, d'accord. Mais voyez, comment voulez-vous que ces personnes entrent dans le repos si elles ne croient pas que Dieu est plein d'amour? Et voyez, je vous ai dit que dans ces mois à venir, nous partagerions ce sujet, nous regarderions quelle était la part de l'homme, nous regarderions quelle était la responsabilité de Dieu. Il faut pas patauger là-dedans. Il faut au moins être clair avec ça. Ce qu'un pasteur a le devoir de faire, le minimum qu'il doit faire, c'est cela. Mais moi, je vous dis que Dieu vous aime, quels que soient vos efforts. Alors, voyez ces chrétiens, ah, Dieu doit vous aimer, ah, vous faites ci, vous faites ça. Tout ça, c'est du poison. Vous entendez? C'est du poison qui envenime la vie spirituelle. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de faire confiance à Dieu, à son amour. Est-ce que vous faites confiance en son amour? Et tout cela, c'est par la foi. C'est pas par des sentiments. C'est pour ça que Jean règle un problème énorme dans la première épître de Jean. C'est pour ça qu'on a lu « Nous savons que », vous avez vu que j'ai insisté, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie ». Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent toujours ressentir. « Ah, mais moi j'aimerais ressentir ». Mais je dis « Mais arrêtez, arrêtez !» Moi, ça me fatigue. Quelqu'un me dit « Oh, monsieur Gauche, ce matin, j'ai senti la présence de Dieu. » Vous n'avez pas senti? Vous voyez? Mais moi, je sais que Dieu est là. Alors, est-ce que vous avez besoin de ressentir que Dieu est là? Est-ce que vous savez qu'il est là? Mais il est là. Si vous ne croyez pas ça, vous le faites menteur. Mais comment voulez-vous avoir le repos si vous commencez à vous mettre en porte-à-faux avec la vérité, puisque vous êtes dans le mensonge? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans le repos, parce qu'ils n'ont pas compris quel était l'amour de Dieu. C'est une grâce. Le mot grâce, ça signifie un don, une faveur imméritée. Dieu est plein de grâce. Il est assis sur le trône de la grâce. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner sa faveur. Je vais faire ça. Voyez, si vous le faites, faites-le de tout votre cœur. Vous vous occupez des enfants, faites-le de tout votre cœur. Vous chantez à la chorale, faites-le de tout votre cœur. Mais vous ne gagnerez pas sa faveur parce que vous servez le Seigneur. Et il va falloir que je réponde moi à tous ces mails pour expliquer aux gens que ce n'est pas parce que je suis pasteur que je peux avoir plus de faveur aux yeux de Dieu. C'est du poison. Je vous assure que c'est du poison. C'est peut-être gentil, mais ça ne sert à rien du tout. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Vous entendez, il n'y a rien que l'on puisse faire pour gagner la faveur de Dieu. Jusqu'à la fin, tout dépendra de la grâce de Dieu. Vous pouvez bouger, c'est une grâce de Dieu. Moi, je le disais avant, mais je peux vous dire que je le dis encore plus aujourd'hui. J'y vois, je vous assure, c'est une grâce de Dieu d'y voir. Et tout est une grâce de Dieu. Vous allez pouvoir vous lever, vaquer à vos occupations, tout est une grâce de Dieu. Tout, du début jusqu'à la fin, ne sera qu'une grâce de Dieu. Dieu n'est pas à vendre. Vous entendez? Les échelles pour lui plaire, c'est pas, ça vient des hommes. Et moi, j'ai honte. Je suis tombé dans le panneau. Ici. J'en ai honte. Je me suis fait piéger moi-même, je vous le dis parce qu'on n'a rien à cacher, par des chrétiens légalistes. J'ai pas le temps d'en parler ce matin. J'y reviendrai petit à petit. Je me suis fait moi-même piéger, moi qui n'ai que le souci d'être un homme équilibré. Je me suis fait piéger. Et dans bien des domaines, c'est ma femme, mes enfants qui me l'ont fait remarquer. Gérard, tu es légaliste. Par rapport à ça, tu as dit ceci, tu nous as dit cela, c'est du légalisme. Et il a fallu qu'ils insistent pour que j'en prenne conscience. Et peut-être que Dieu sait ce qu'il faut pour qu'on en sorte. Les échelles pour lui plaire, les règles, les formules, les doctrines que les hommes établissent, alors qu'il y a une saine doctrine, etc. Tout ça, j'ai pesé mes mots avant de le dire, tout ça, ce sont des insultes que l'on met dans les églises. Ça sert à rien. Écoutez bien, tu le dis, tu le dis pas? Oui, je le dis. Et je le pense. C'est une insulte que de dire aux gens, c'est une insulte à Dieu. Que de dire aux gens, si vous faites ceci, vous plairez à Dieu. Si vous faites cela, Dieu vous bénira. Si vous donnez davantage, ça va plaire à Dieu. Mais bien sûr que quand on donne, ça plaît à Dieu. Mais bien sûr que quand on prie, ça plaît à Dieu. Parce qu'on entretient cet affectif dont je parlais tout à l'heure. Mais voyez la chair, parce que la chair, elle y est toujours la chair. Et la chair, elle insiste tout le temps pour que nous fassions des efforts pour gagner la faveur divine. Mais on sait que le pardon est gratuit. Est-ce que vous le savez que le pardon est gratuit? Mais tout le reste est également gratuit. Voyez, la vie naturelle, parce qu'elle y est, il faut quand même le reconnaître, tout le temps, elle est là, en train d'essayer de nous faire croire que si on fait ceci, que si on fait cela, quand même, on sera digne de recevoir la grâce de Dieu, etc., etc., etc. La bonne nouvelle, vous savez ce que c'est. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans. Lorsque Jésus-Christ a donné sa vie sur le bois de la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas une liste de choses à faire pour essayer de plaire au Seigneur. Si c'est ça la bonne nouvelle, je vous le dis, c'est du poison. Alors, bien sûr que, vous savez, j'ai suffisamment prêché là-dessus, sur la foi, la fidélité, l'obéissance, la consécration, etc. Mais croire qu'au travers de ces choses, on va plaire à Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout est accompli par la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si on ajoute des conditions, etc., on met du poison dans l'évangile. Alors, beaucoup de paroles que Jésus a citées dans les évangiles n'avaient que ce but. Et je termine avec un témoignage. Ce but, c'est-à-dire d'enseigner aux religions, d'enseigner aux pharisiens qu'ils inoculaient du poison. Regardez avec moi dans Luc chapitre 16. Vous connaissez la parabole du fils prodigue? La parabole du fils prodigue, il y a un contexte, les pharisiens étaient en colère, furieux, pourquoi? Parce que Jésus mangeait avec des pécheurs. Et eux, ils avaient surtout décrété que les religieux ne doivent pas manger avec des pécheurs. Voilà comment un homme pouvait plaire à Dieu. Alors voyez un petit peu. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Luc chapitre 15, verset 2, c'est pour ça qu'il a donné la parabole du fils prodigue. Regardez bien, ils étaient en colère, parce que Jésus, bien sûr, les scandalisait, il mangeait avec des pécheurs. Ça ne veut pas dire pour ça que si Jésus était l'ami des pécheurs, il faut aimer le péché. Jésus était l'ami des pécheurs, mais il est dit ailleurs qu'il était éloigné du péché. Je dis ça parce que certains ont vite fait de dire, Monsieur Gou, il a dit, que comme Jésus était l'ami des pécheurs, on pouvait être bien avec les pécheurs. L'ami des pécheurs se tenait éloigné du péché. Je le dis parce que c'est peut-être bien. Luc 15, verset 2, « Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux. » Est-ce que vous vous rendez compte? Il transgressait la loi qu'eux avaient imposée, la religion qui permettait aux hommes de plaire à Dieu. Et vous connaissez tous la parabole du fils prodigue. Qui ne connaît pas la parabole du fils prodigue? Cet homme qui s'en va. Il s'en va de la maison de son père. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas compris certaines choses. Voilà pourquoi des gens rétrogradent, parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses. Alors, bien sûr que les pharisiens, eux, méprisaient les pécheurs. Vous voyez, alors que nous, on doit les aimer, quel que soit le péché. Vous voyez, en ce moment, il y a beaucoup de propos sur l'homosexualité. Il faut faire attention, nous haïssons l'homosexualité, mais nous devons aimer les homosexuels. Et nous devons avoir de la compassion pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut faire attention. C'est sûr que l'homosexualité, ça attire la colère de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais que Dieu nous donne plein d'affection pour les homosexuels. Il peut y en avoir un parmi nous. Nous vous accueillons, nous ne vous jugerons pas, même si nous avons du dégoût pour l'homosexualité. Mais vous ne nous dégoûterez pas. Donc, les pharisiens étaient scandalisés par l'attitude de Jésus. Donc, ils racontent cette histoire de ces deux fils, dont un a voulu prendre la part d'héritage qui lui convenait, pour partir. Il avait, lui, tout réglé. Vous voyez, il n'a pas dit, bon, je vais quand même attendre que tu meurs, parce que normalement, quand on a du respect, on attend que les parents meurent pour avoir la part d'héritage. Non, c'est comme ça? Moi, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Mais vous êtes d'accord avec moi? Mais lui, pour vous montrer le mépris qu'il avait pour son père, il a demandé quelque chose qui était légal. Il a demandé sa part d'héritage avant que son père ne meure. Ça voulait dire, j'ai pas envie d'attendre que tu meures, moi je veux ma part de suite. Nous voyons dans le propos de ce garçon énormément du mépris. Vous connaissez la suite, vous la connaissez. Cet homme s'est retrouvé dans la famine. Et il se retrouve comme un gardien de cochons. Les pharisiens, je ne sais pas s'ils ont tout compris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour un juif, un homme ne pouvait pas tomber plus bas. se retrouver gardien des cochons. Hier soir, je lisais, pour ceux qui s'intéressent, Lévitique 11 et Deutéronome 14, je lisais ce que la loi enseignait par rapport au porc. De ne pas manger des porcs du porc, de ne pas toucher des porcs, que celui qui touchait un porc, eh bien, il devait se laver et laver ses vêtements, etc. Et Jésus est en train de dire à ces pharisiens qui avaient voué les pécheurs à l'enfer, manger avec des gens de mauvaise vie, mais c'est abject, c'est quelque chose de dégoûtant. Et le Seigneur, Jésus, n'oublions pas, c'est notre modèle, est en train de les aider, il ne dit pas ça pour se moquer d'eux, il est en train de les aider à comprendre l'amour de Dieu. On n'a pas à juger les gens. Bien sûr qu'il faut juger le péché dans l'Église, ça on le fait. Mais on n'a pas à juger les gens. Et vous savez comment s'est comporté le fils avec ses cochons, il a commencé à réfléchir, il s'est arrêté. Vous voyez qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il s'est arrêté, il a réfléchi, il a dit, bon, il ne connaissait pas bien son père. Je vais essayer de rentrer à la maison comme un serviteur, comme un esclave. Bien sûr que lui, il ne pensait pas du tout retrouver la place de fils. Pensez donc, avec ce qu'il avait fait, avec ce qu'il avait dit, avec l'argent qu'il avait pris et comment il l'avait gaspillé. Mais enfin, il s'est dit, je mes ouvriers, au moins chez mon père, ils mangent, ils ont leur logement, etc. Cette histoire, vous la comprenez mieux. Elle est là pour que nous comprenions que Dieu nous aime, même si nous sommes tombés bien bas. Si nous tombons bas, si nous nous éloignons de Dieu, si nous quittons les églises, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Parce que je peux vous dire que si ce jeune homme avait connu l'amour que son père avait pour lui, et non pas les contraintes du boulot, il faut bosser pour lui, et il faut réparer les clôtures pour lui, et il faut garder les moutons pour lui, et il est tout le temps en train de nous donner du boulot. Ils en étaient au travail, ils en étaient à cet aspect qui ne vaut rien. Mais est-ce que cet homme aimait son fils? Il l'aimait inconditionnellement. Cet homme devait savoir très bien. Et lui qui puait le porc lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'a fait le père qui représente Dieu? Les pharisiens l'avaient quand même compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il court vers lui et il le prend dans ses bras. J'imagine les yeux que devaient faire les pharisiens. Ils devaient être furieux, les pharisiens. Parce que Jésus était en train de leur dire, voilà vous comment vous aimez les gens, mais moi je vais vous dire comment Dieu aime les gens. Dieu aime les pécheurs les plus bas tombés. Alors ce n'est pas pour ça qu'il faut rester dans le péché. Parce que quand même Jésus dira dans la parabole, mon fils que voici était mort. Et lorsqu'on vit dans le péché, on n'a pas la vie de Dieu. Mais si ce jeune homme avait compris comment son père l'aimait, il ne se serait jamais éloigné de lui. Voilà pourquoi des chrétiens n'ont pas le repos, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont jamais eu le repos, parce qu'ils ne reçoivent pas le témoignage de Dieu par rapport à son amour. Dieu vous aime. Il vous aimait avant votre conversion, il vous aime éternellement. Et beaucoup de chrétiens sont fatigués, écœurés, ne sont jamais dans le repos, et quittent les églises. Moi, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi des gens rétrogradent? Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour du Père. Quand vous connaissez l'amour de Dieu, vous ne pouvez que vous approcher de lui. Même sa sévérité vous rassure. Oui ou non? Ça vous affole la sévérité de Dieu, vous? Ou ça vous rassure? La sainteté de Dieu, ça vous fait peur? Ou ça vous rassure? La justice de Dieu, ça vous fait peur? Mais si vous connaissez que la justice, la sévérité et la sainteté de Dieu, oui, ça peut vous faire peur. Mais si vous connaissez l'amour de Dieu, tout le reste ne peut pas vous faire peur. Et ce jeune homme a rétrogradé et s'est retrouvé mort pour la simple et unique raison que malgré le fait qu'il était dans la maison, il ne connaissait pas l'amour de son père. Si vous saviez combien Dieu vous aime. Moi, vous savez, je bénis Dieu parce que je passe mon temps à préparer ces prédications. Je dois travailler, vous le savez, à mi-temps. Je dois faire quand même très attention. Mais je suis convaincu que Dieu veut que vous connaissiez son amour. C'est son amour qui fera que vos cultes seront une bénédiction et que quand vous partirez dans votre voiture, mais vous êtes au bénéfice de l'amour de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu vous aime tout le temps. Le culte va se terminer dans quelques secondes, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on lit cet enseignement? Eh bien, on peut que dire merci Seigneur. La parabole du fils prodigue, vous la lisez, vous dites, mais Seigneur, merci. Ce fils méritait l'enfer, c'est tout ce qu'il méritait. Oui ou non? Il méritait l'enfer. Mais l'amour de Dieu est beaucoup plus grand et l'amour de Dieu a attiré ce jeune homme. Et si nous sommes pleins d'amour, eh bien, les gens viendront parce que nous ne les jugerons pas. Est-ce que vous croyez que Dieu peut amener des gens dans une église remplie d'affection? C'est sûr que si une fille vient, si une fille prostituée vient et qu'elle est là avec une tenue un petit peu légère, ben tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Hein? Nous, on est chrétiens, nous, tu sais. Tu as vu comment on est sapés, nous? Nous, on est chrétiens. Oui, mais c'est ça. J'espère que vous ne le faites pas. Bien sûr qu'une chrétienne doit veiller à son témoignage extérieur. Mais les pécheurs, on ne peut pas les accueillir comme ils sont. On ne peut pas les accueillir comme ils sont. Et quand on n'a pas compris l'amour de Dieu, c'est qu'on n'est pas soi-même. De toute façon, quand on accueille quelqu'un comme ça, c'est qu'on n'a pas connu l'amour de Dieu. Parce que quand on sait le prix que Jésus a payé pour une âme, je peux vous assurer qu'entre guillemets, on met des gants pour accueillir quelqu'un. Ce jeune homme n'avait pas compris l'amour de Dieu. Cette parabole, c'est une grande bénédiction. Et vous pourrez dire merci. J'en ai presque pas dormi. Et je vais vous dire quelque chose. Là, c'est plus la prédication. C'est moi qui le pense. Vous savez, quand on se retrouve, qu'on boit l'apéritif, qu'on boit quelque chose, on dit santé. Oui ou non? Vous le faites? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous... Yana, vous le faites pas? Vous le faites, vous? Est-ce qu'il y a des gens normaux qui le font? Est-ce qu'il y a des gens... On le fait. Et vous savez, hier, je disais, mais quand on trinque, je suis sérieux, vous comprenez bien que si je vous le dis, c'est... On devrait dire grâce. Parce que tout est grâce. Mes frères et sœurs, quand je vois comment Jésus nous aime, comment il est capable de prendre quelqu'un qui pue, qui empeste, de le prendre et de lui dire, voilà comment je veux que vous sachiez comment Dieu aime les gens. Il vous aime. Si vous ne recevez pas ce témoignage, vous faites Dieu menteur. Alors ne vous attendez jamais à avoir le repos si vous ne croyez pas que le Seigneur vous aime. Mes frères et sœurs, il vous aime. Donc, le repos, s'arrêter, ne pas infiltrer la religiosité dans l'Église et croire de tout votre cœur que Dieu vous aime. Je veux que vous sachiez ces choses. Vous savez que vous relirez. Que le nom du Seigneur soit béni. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, oui, comme la chorale a pu le chanter, merci pour ta parole. Merci de nous avoir laissé ta parole. Il fallait vraiment que tu nous aimes, Seigneur, pour nous laisser ta parole. Et montrer aux hommes comment tu les aimes, comment tu nous aimes, comment tu nous as aimés, comment tu nous as prouvé ton amour. Oui, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ne reçoivent pas ton témoignage, et qui restent accrochés à leurs pensées et à leurs propres convictions, alors que tu veux nous communiquer les tiennes, pour nous communiquer ton repos. Seigneur Jésus, aide-nous vraiment à comprendre que si nous connaissons ton amour, jamais, jamais ne pourrons nous éloigner de toi. Que ton nom soit béni pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Amen.